Mandrin. Deuxième partie, chapitre 12. Raison d'État. Louis XV était dans ses mauvais jours. L'aventure de Nicole l'avait distrait de son morbide ennui, mais pendant quelques heures seulement, et le lendemain, il avait été repris par une de ces crises de mélancolie auxquelles la favorite avait tant de peine à l'arracher. En se rendant chez Madame de Pompadour, il s'était laissé choir dans une bergère, en l'attitude d'un homme qui ne sait à quoi employer son existence. La marquise s'était efforcée de le distraire en lui énumérant le programme de la grande fête qu'elle comptait donner prochainement en son honneur, en sa résidence de Bellevue. Mais Louis XV ne l'écoutait même pas. Et vite, il s'était mis à caresser un petit chien qui s'était enhardi jusqu'à faire le beau devant Sa Majesté, lorsqu'on frappa discrètement à la porte. C'était un gentilhomme de la chambre qui venait annoncer au roi que le lieutenant de police lui demandait audience pour une affaire d'État. « Faites entrer, monsieur le lieutenant de police, dans mon cabinet, » ordonna Louis XV, et il grommela. « On ne peut donc me laisser en paix. » Après avoir effleuré de ses lèvres la main de la favorite, il s'en fut, d'un air las, retrouver le marquis d'Argenson. À l'attitude préoccupée mais respectueusement énergique de son ministre, Louis XV comprit qu'il ne s'agissait pas cette fois d'une affaire ordinaire, mais que de graves événements nécessitaient cette entrevue. « Monsieur le lieutenant de police, » dit-il, « parlez, mais de grâce, parlez vite, car je ne suis pas d'humeur à écouter les longs rapports. « Sire, » attaquait le marquis d'Argenson, « j'irai droit au but. » Et d'une voix où vibrait une violente émotion qu'il avait peine à contenir, il scanda « Je viens supplier votre majesté de révoquer l'ordre de grâce qu'elle a signé, à mon insu, en faveur de Mandrin. »« Qu'est-ce à dire ?» s'exclamait le monarque, plus vexé d'être surpris en flagrant délit de cachotterie que du blâme indirect et formel qu'il lisait dans le regard de son ministre. « Sire, daignez m'écouter avec toute l'auguste et patiente bienveillance dont vous m'avez déjà tant de fois honoré. » Mais Louis XV l'interrompait en un ressaut d'autorité. « J'entends qu'on me laisse tranquille avec cette histoire. » Avec une opiniâtreté qui n'allait pas sans un grand courage, le lieutenant de police insistait. « Dussé-je encourir la disgrâce de votre majesté? Je considère que c'est pour moi un impérieux devoir que de la mettre au courant de faits qui sont de nature à porter atteinte à son prestige et même à provoquer dans tout le royaume d'irréparables désordres. » Impressionné par le langage du lieutenant de police, Louis XV, tout en poussant un profond soupir, fit sèchement « Puisque vous l'exigez, Dieu me préserve, sire, d'une aussi insolente audace. Je supplie simplement le roi de France d'accorder quelques instants d'attention au plus dévoué de ses serviteurs. Je vous écoute, monsieur. Sire, je viens d'apprendre à l'instant, et de la source la plus sûre, puisque c'est monsieur le fermier général Bourré d'Érigny qui m'en apporte la fâcheuse nouvelle, que les troupes du colonel Lamorlière, envoyées en Dauphiné pour s'emparer de Mandrin, ont été mises en déroute par ce malfaiteur. La victoire aussi décisive qu'éclatante de ce bandit ne peut avoir dans tout le pays qu'une répercussion terrible. C'est en effet la ruine des caisses publiques, l'ébranlement de la monarchie et, qui sait, peut-être même la révolution prédite par les philosophes. Voilà pourquoi je me permets de vous présenter cet ordre de révocation que je viens de rédiger moi-même, et je vous adjure, sire, d'y apposer votre signature. » Louis XV s'empara du papier que lui tendait le lieutenant de police, et sans même y jeter un coup d'œil, il le déposa sur la table. « Nous verrons, » fit-il, reprenant pour son propre compte l'une des expressions favorites de son aïeul, le roi Soleil. « Sire !» s'écria d'Argenson. « Sire, le temps presse. Songez au découragement qui s'emparera de tous vos serviteurs lorsqu'ils apprendront que Mandrin est absous de ses crimes, qu'il a pu impunément déclarer la guerre à l'État et braver votre autorité royale. Pour ma part, si profonde soit ma douleur d'abandonner votre service, j'estime qu'il me sera impossible de conserver plus longtemps les hautes fonctions auxquelles votre confiance m'avait appelé. Vos autres ministres ne manqueront pas de me suivre dans ma retraite, et il n'est pas un seul officier, vraiment digne de ce nom, qui ne soit prêt à briser son épée plutôt que de servir aux côtés d'un bandit qui a infligé à l'un des meilleurs d'entre eux la honte d'une aussi sanglante défaite. Sire, pardonnez-moi, mais écoutez-moi, pensez à votre trône, à votre dynastie, pensez à la France. » D'un geste nonchalant, Louis XV s'empara de la plume plantée dans son écritoire, sans paraître soupçonner un seul instant la gravité de la partie qu'il jouait, uniquement préoccupé de se débarrasser de ce lieutenant de police importun et préférant céder à ses exigences plutôt que d'encourir les risques d'une révolution de palais, il signa, reniant, en un moment de lassitude mentale, le geste de clémence que Nicole et Madame de Pompadour avaient réussi, au prix de tant de peine, à obtenir de sa sommeillante générosité. Et il tendit le papier à son ministre en disant « Soyez satisfait, monsieur le ministre de police, mais vous allez me causer bien des ennuis. » Bravement, M. d'Argenson, fier de sa victoire, ripostait « Je m'en excuse auprès de votre majesté, et je suis sûr qu'elle me pardonnera, même au prix de quelques désagréments intimes, d'avoir osé braver son mécontentement dans le seul but de défendre sa gloire. » Et, s'inclinant devant Louis XV, le lieutenant de police s'empressa d'aller rejoindre Bourré d'Érigny, qui l'attendait avec une fiévreuse impatience. « C'est fait !» déclara-t-il aussitôt au fermier général. « Voici l'ordre de révocation signé par le roi. Repartez donc en Dauphiné au plus vite. Rien désormais ne paralysera plus vos efforts. Je connais le colonel Lamorlière. Il est homme à prendre promptement sa revanche. « Monsieur le lieutenant de police, » répliqua le financier, « en mon nom et en celui de tous les fermiers généraux de France, je vous remercie. » Quelques instants après, Bourré d'Érigny, tout à sa vengeance, s'apprêtait à franchir, à cheval, la grande grille du château de Fontainebleau. Mais un cri de colère lui échappa. Il venait d'apercevoir, se querellant avec les mousquetaires de garde, une forte commère, en laquelle il reconnut aussitôt Madame Malicet. Prudemment, à une certaine distance, se tenait le brave Agénor, visiblement déprimé par les fatigues d'un long voyage, et la jeune Martine, qui n'avait Dieu que pour les beaux militaires du roi en train de gourmander sa patronne. Mais l'énergique Thérèse ne se laissait nullement démonter par les rebuffades des factionnaires. « Je suis la cousine de la marquise de Pompadour !» clamait-elle de toute la force de ses puissants poumons. « Je sais que ma fille est ici. Laissez-moi passer !» Tout à coup, elle eut un soubresaut violent. Elle venait d'apercevoir le fermier général. « Mon gendre !» s'écria-t-elle. Et, fonçant avec impétuosité vers Bourré d'Érigny, qui ne pouvait plus songer à la retraite, elle s'écria « Vous ici ? Vous allez pouvoir me donner des nouvelles de Nicole ?»« Parfaitement, » répliquait le financier. « Elle est ici ? Non. Votre péronnelle de fille est déjà repartie pour la Savoie. »« Pour la Savoie ? » ?»« Où je me prépare à la rejoindre et à lui faire payer cher l'outrage qu'elle a fait à mon honneur. » Et à mon nom. À cause de nous, de ses pauvres parents, épargnez-la. Allez au diable. Monsieur Bourré, monsieur d'Érigny, monsieur le fermier général, en voilà assez, et que je ne vous retrouve plus sur ma route. sinon la potence. » Et le financier, éperonnant sa monture, partit au galop.
Oh, « c'est trop fort !»
étouffait Madame Malissé au paroxysme de la rage. Et, se retournant vers son mari, elle ordonna
« Retournons en Dauphiné !»
Mais un cri d'indignation lui échappa. Appuyé sur l'épaule de Martine, qui chancelait sous le poids de son corpulent maître, le bon Agénor faisait mieux que de dormir. Il ronflait.